Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
À qui c'est cette terre, Henri ?
C'est ma terre.
Le voilà enfin, notre héros de guerre est de retour au bercail.
T'as bien fait de revenir ici, parce qu'ici, les osages sont les meilleurs, les plus magnifiques créatures au monde. Mais ce sont des gens avisés. Et ils ont fait en sorte de décider seuls à qui revenait le pétrole. Parle-moi de toi. T'aimes les femmes ?
C'est mon grand péché.
Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée à la représentation des Amérindiens dans le cinéma US. Nous aborderons le dernier film en date de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, adapté d'un ouvrage de David Gran, La Note Américaine, disponible chez Pocket. Nous causerons aussi du livre Le Sang Noir de la Terre, écrit par Linda Hogan, véritable indienne Chickasaw, une tribu voisine des Osages, qui est parue aux éditions Rocher dans la collection Nuages Rouges. Nous évoquerons également quelques films qui traitent du sujet, comme par exemple La Porte du Diable d'Anthony Mann, qui est disponible chez Whiteside, ou Cœur de Tonnerre de Michael Apted, et qui est édité par Sony. Mais avant de débattre au sujet de tous ces livres et films, nous aborderons l'incroyable histoire des Indiens Osages en compagnie de Marie-Claude Feld-Strigler, maître de conférence à l'université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle et docteur en civilisation américaine, spécialiste de l'histoire des Indiens des États-Unis et auteur, entre autres, de Les Indiens Osages, enfants des eaux du milieu, paru dans la collection Nuages Rouges aux éditions du Rocher. L'équipe de Culture Prohibée remercie Cheng Long Zong pour son aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. Pour causer amérindien au cinéma, je suis aujourd'hui accompagné de Thomas Roland, un sacré sioux ce Thomas Roland, mais on le surnomme plutôt le loup-garou picard, car chaque nuit de pleine lune, il rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédacteur en chef. Salut Thomas !
Salut GG, bien évidemment, salut à toutes !
Avant d'aborder le dernier film de Martin Scorsese, avant d'aller plus en détail dans quelques choix de la rédaction sur les Amérindiens au cinéma et la manière dont ils sont traités dans le cinéma américain, états-unien, on va écouter Marie-Claude Feld-Strigler. Marie-Claude Feld-Strigler, c'est une universitaire qui voit là un de ses ouvrages être réédité dans une édition avec une nouvelle préface, entre autres, aux éditions du Rocher, dans la collection Nuages Rouges. Et cet ouvrage, c'est Les Indiens Osages, enfants des eaux du milieu. Alors, on a joint Marie-Claude Strigler le jour, je vous le dis, hein, Marie-Claude Feld-Strigler, pardon, le jour de la tempête où le vent soufflait très fort, donc les conditions sonores, parfois il y a des petits décrochages, voilà, mais show must go on, on est allé au bout de la démarche, on voulait à tout prix échanger avec Marie-Claude Feld-Strigler, car comme vous allez pouvoir l'entendre, elle connaît son sujet sur le bout des doigts. Donc tout de suite, Marie-Claude Feld-Strigler au micro de Culture Prohibée. Bonjour Marie-Claude Feld-Strigler.
Bonjour.
Alors, vous êtes maître de conférence à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Vous êtes l'auteur d'une thèse de doctorant intitulée La Nation Navarro, Tradition et Développement. Puis vous signez plusieurs ouvrages sur les Navarros, ainsi qu'une histoire des Indiens des États-Unis, L'autre Far West, paru chez L'Harmattan. Avant qu'on aborde l'ouvrage qui nous intéresse plus pour cette émission, je voulais vous demander d'où vous vient cette passion pour les Amérindiens.
C'est un peu le hasard. J'étais autrefois professeur en lycée. J'avais toujours des élèves de terminale et dans les recueils de textes, il y avait toujours des textes sur les Amérindiens. Et j'avais remarqué que mes collègues ne choisissaient jamais ces textes-là. Donc, par curiosité, je ne connaissais rien du tout. Je me suis dit que, après tout, c'était pas normal, il fallait pas laisser ça de côté. Donc j'ai commencé à étudier effectivement l'histoire des Amérindiens des États-Unis et j'ai trouvé ça passionnant. Et voilà, j'étais prise par le virus qui ne m'a jamais quittée.
Aujourd'hui, nous nous rencontrons Marie-Claude Feldstrigler au sujet de Les Osages, enfants des eaux du milieu, paru aux éditions du Rocher dans la collection Nuages rouges. Et comment avez-vous rencontré justement les Indiens Osages ?
Alors effectivement, vous avez mentionné tout à l'heure que j'avais fait une thèse sur les Indiens Navarro et les Osages ne sont pas du tout dans la même région puisqu'ils sont actuellement en Oklahoma. Le hasard a fait que j'ai été invitée à faire une conférence à Montauban où j'ai fait connaissance de Jean-Claude Drouillet qui a créé l'association Oklahoma Occitania en mémoire de trois Osages qui sont arrivés à Montauban en 1829. Qui était tout à fait abandonné, désespéré. Et l'évêque de Montauban a ouvert une souscription. Les gens ont donné de l'argent qui leur a permis de retourner chez eux en Amérique. Et les Français avaient complètement oublié cette histoire, mais pas les Osages. C'est une histoire que tous les Osages connaissent. Donc il y a des liens d'amitié avec la France. Et ce monsieur a décidé de renouer ces liens d'amitié qui avaient été oubliés par les Français. Et donc, c'était en 1989, si je me souviens bien. Et depuis, il y a des délégations Osages qui vont à Montauban tous les ans et des Français qui vont chez les Osages tous les ans. Et j'ai fait partie plusieurs fois de ces délégations françaises, ce qui a permis de se créer vraiment des liens d'amitié. Et un jour, le maire de Port-Huesca, la capitale de la réserve, m'a offert une plume d'aigle, qui est un honneur insigne, et m'a dit en France, personne n'a jamais écrit l'histoire des Osages, donc ce serait bien que toi, tu le fasses. Et donc, ayant reçu cette marque d'amitié et d'estime, je ne pouvais pas ne pas écrire cette histoire. Et voilà, le livre est là.
Le livre débute par une présentation de deux personnes qui, je pense, comptent beaucoup pour vous et qui comptent beaucoup pour le peuple osage. C'est Leonard Maker, qui est un historien osage, et son frère John Maker. Vous nous dites ce que vous nous disiez à l'instant, que les Osages ont un lien particulier avec la France, et avant même le XXe siècle, d'ailleurs, avant même les faits décrits dans Killers of the Flower Moon. En fait, les Osages, c'est un peuple très ancien. La première mention de leur existence, vous écrivez dans le livre, c'est 1673. C'est impressionnant.
Oui, effectivement. C'est le père Marquette qui les a mentionnés pour la première fois et a œuvré à leur christianisation, puisque à l'époque, c'était une des tâches que s'étaient assignées les Européens. Donc, effectivement, depuis le XVIIe siècle, et même avant, puisqu'ils ont été mentionnés par les Espagnols de Coronado, vers la fin du XVIe siècle. Donc, on les connaît depuis très longtemps. Et curieusement, c'est une tribu qui était pratiquement inconnue en France, à part cet épisode d'arrivée à Montauban de quelques Osages qui ont été mentionnés dans les journaux de l'époque. Maintenant, évidemment, on va beaucoup parler des Osages avec le film de Scorsese et tiré effectivement du livre de David Graham, ce journaliste du New Yorker.
D'ailleurs, dans cette préface à cette deuxième édition de votre ouvrage, je crois, hein, Les Indiens aux âges, enfants des eaux du milieu, paru aux éditions du Rocher, vous faites un point sur le pétrole. L'or noir est au centre des livres de Linda Hogan et de David Gran, qui sont deux livres qui traitent de faits identiques, ceux qui sont traités donc dans le film de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le traitement subi par les osages à la fin du 19e, début du 20e aux USA, parce qu'ils ont d'abord été bannis, on les a cloîtrés, après on a découvert qu'il y avait du pétrole sur leur terre. Enfin, ça, c'est un peuple quand même qui a énormément subi.
Oui, comme beaucoup de tribus indiennes en fait. Mais ceci dit, les osages sont particuliers au sens où ils ont été déplacés plusieurs fois. Ils sont originaires au départ du Missouri, et puis ils ont été déportés au Kansas, justement sous la pression des colons qui arrivaient d'Europe. Et le Kansas, malheureusement pour eux, avait des terres fertiles. Donc très vite, les colons ont empiété sur leur territoire et l'État du Kansas les a repoussés. Et cette fois-ci, ils ont atterri en Oklahoma, dans une terre intacte, pas du tout favorable à l'agriculture. Donc, ils ont essayé de survivre tant bien que mal, jusqu'au jour où le moteur à combustion interne a été inventé. Et là, la richesse a été soudaine, puisque pour ces voitures, il fallait du pétrole. Et là, l'exploitation a explosé, non pas par eux, mais par des grandes compagnies, soit américaines, soit internationales. Mais ils ont réussi à avoir des royalties. Donc, ils sont devenus effectivement riches du jour au lendemain. Et les journaux disaient, ce sont les gens les plus riches du monde. Non pas les Indiens les plus riches, mais les gens les plus riches du monde. Donc, évidemment, dans ces cas-là, la convoitise des Américains non-Indiens s'est fait jour. Et il y a eu beaucoup de mariages mixtes des non-osages qui épousaient des osages. Là, pas du gain, évidemment. Et puis, il s'est avéré qu'il y avait des morts mystérieuses chez les époux ou épouses osages, soit par empoisonnement, soit accident de voiture, soit incendie de la maison. Mais au début, le gouvernement fédéral ne s'en est pas ému particulièrement, ça n'était après tout que des Indiens. Mais ça a pris de telles proportions que le gouvernement tribal a envoyé une délégation à Washington auprès du président Coolidge pour demander que des enquêtes soient faites. Le président Coolidge a finalement envoyé un enquêteur sur place pour essayer de trouver qui étaient les coupables. Mais au départ, les gens ne parlaient pas, tout simplement parce qu'ils avaient peur d'être les prochaines victimes. Jusqu'au jour où une jeune femme, Maudie Burkhart, qui est vraiment au cœur du film de Scorsese, a avoué qu'elle pensait qu'on l'empoisonnait. Et ça a été le point de départ. Il a suffi que quelqu'un parle pour que les autres commencent à parler également. Et donc, il y a eu effectivement découverte d'un certain nombre de tractations, de corruption, d'assassinats. Et il y a eu des procès. Donc, étaient concernées à peu près une soixantaine de personnes, mais il est évident qu'il y avait beaucoup d'autres coupables qui, eux, n'ont jamais été inquiétés. C'est pourquoi ce journaliste, David Gran, a décidé de mener son enquête à lui, et effectivement, ça a été le résultat de son livre qui a donné lieu, finalement, Scorsese a acheté les droits. Mais il est intéressant de savoir que ce n'est pas le premier film sur ces tragédies. Il y a eu un film en 1926, un film muet, qui s'appelle « Tragédie dans les collines Osage », qui relate ces faits. Et ce film muet, malheureusement, a disparu parce qu'il était fait sur des bobines en rhodoïde qui se sont dégradées. Donc, plus personne ne peut voir ce film. Mais donc, ça montre bien que, dès le départ, ça a suscité la curiosité de certains cinéastes. Et ce qui est à remarquer aussi, c'est que ce cinéaste était indien, un Nanticoke, c'est James Young Deer. Et voilà, donc il y a eu successivement plusieurs films sur ces tragédies Osage. Et c'est toujours très très présent à l'esprit des Osages actuels, parce que finalement, ça n'est pas très loin passé. Et ils sont très nombreux à avoir des proches, soit amis, soit famille, qui ont été concernés par ces tragédies.
Vous écoutez Marie-Claude Feld-Strigler au micro de Culture Prohibée. Ouvrage, vous expliquez que grâce au tournage du film de Scorsese, donc sur le règne de la terreur, ce qu'on appelle le règne de la terreur, ce que vous venez de décrire, les Osages espèrent obtenir réparation pour les injustices subies. Comment comptent-ils s'y prendre? Est-ce qu'ils pensent que le film peut à ce point faire débloquer des situations?
Débloquer des situations, je ne sais pas, mais au moins que les gens sachent ce qui s'est passé. Parce que jusqu'à présent, peu de gens connaissaient l'histoire des Osages, qui ne sont pas une tribu. Elle est riche, certes, mais pas très nombreux. Donc, rien que le fait que les gens connaissent, ça attire l'attention. Et en 2006, ils ont réussi à aboutir à une constitution, un petit peu sur le modèle de la constitution américaine, mais très proche de la constitution des Cherokees. Et grâce à cette constitution, ils peuvent intervenir au-delà de la réserve et au-delà de l'Oklahoma. Et le chef Geoffrey Standing Bear fait des discours, des interventions, des délégations à Washington, justement pour que ces faits soient reconnus et surtout que les revenus du pétrole, dont certains bénéficient encore, mais beaucoup de non-indiens bénéficient des revenus du pétrole, soient réservés uniquement au peuple Osage, c'est-à-dire rapatrier tous ces head rights, toutes ces parts du domaine souterrain qui produit le pétrole, soient réservées, soit reviennent entièrement aux Osages.
Et aujourd'hui, combien y a-t-il d'Osages et comment sont-ils répartis sur le territoire états-unien, on va dire, parce qu'il doit y en avoir encore pas mal qui vivent des revenus du pétrole, je pense, parce que vu les échanges qu'on vient d'avoir, certains même n'en vivent pas et devraient en vivre, à ce que je comprends.
Ils sont actuellement à peu près 13 300, 13 500, on ne sait pas exactement. Le chef Geoffrey Standing Bear a lancé le fait d'avoir un recensement spécial pour eux, qui aurait lieu tous les 4 ans, et le premier a lieu en 2023, avec beaucoup plus de renseignements sur chaque membre de la tribu, de façon à avoir un recensement plus exact. Donc, il se peut que dans quelques mois, on ait les chiffres exacts de ce nouveau recensement de 2023. Ceci dit, la plupart vivent en Oklahoma, mais pas uniquement. Il y a une forte communauté en Californie, par exemple. Et puis, à part ça, ils sont répartis un petit peu partout parce qu'ils vont chercher des emplois, il y a des investissements ailleurs. Donc, comme beaucoup de tribus indiennes, il y a un noyau sur place et puis une diaspora un petit peu partout aux États-Unis.
D'accord. Et on découvre aussi dans votre livre, donc Les Indiens aux Sages, Enfants des Eaux du Milieu, paru aux éditions du Rocher, Marie-Claude Feldstrigler, on découvre qu'il y a, certains ont même porté l'uniforme du Kansas pendant la guerre de sécession.
Oui, bien sûr. Ben, comme d'autres Indiens, et bon, ils ont choisi soit le Sud, soit le Noir, soit le Nord. Et bon, beaucoup avaient choisi le Sud parce qu'ils étaient sur place. Et malheureusement, ça les a desservis après la guerre de sécession. Mais ceci dit, si on demande à un Osage aujourd'hui, ce que j'ai fait évidemment, comment est-ce que vous définissez les Osages, la réponse sera, que ce soit les hommes ou les femmes, nous sommes un peuple de guerriers. Ce qui fait que pour les deux guerres mondiales, par exemple, il y a eu des engagés Osages. Et comme les Navajos, ils ont été codeurs, donc ils ont participé à la transmission des messages en langue codée en se servant de la langue Osage. Voilà. Donc on parle beaucoup des code talkers Navajos, mais il y a eu aussi des code talkers Osages, comme d'autres, comme les Chickasaw, par exemple. Donc, ils se sentent toujours des guerriers. Et évidemment, bon, ils n'ont plus l'immense territoire qu'ils avaient autrefois, mais ils se sentent quand même responsables de défendre la terre américaine et la démocratie encore aujourd'hui.
Vous parliez tout à l'heure de ce premier film sur les Indiens Osages, parce que c'est vrai, on l'ignore, le regard en fait, puisque c'est le sujet de notre émission, c'est les Amérindiens dans le cinéma, évidemment dans le cinéma états-unien plus particulièrement, et en cherchant, on a pu découvrir quelque chose qui peut paraître assez surprenant et qu'on oublie souvent, c'est que en gros, jusqu'aux premières revendications très fortes des Afro-Américains, c'est-à-dire que jusqu'aux années 30, dans les westerns états-uniens, en fait, l'Indien bénéficiait plutôt d'un regard bienveillant. C'est assez étonnant.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est seulement plus tard qu'il est devenu cruel et sanguinaire. Mais dans les premiers films, c'était un homme noble, libre, qui faisait plutôt l'admiration des spectateurs.
Et qu'est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, ou peut-être que vos amis Osages, puisque vous en avez rencontré régulièrement, on ne l'a peut-être pas dit assez, mais vous voyagez, vous rencontrez ces tribus indiennes, vous ne vous contentez pas d'écrire à distance, et quel est le regard, le vôtre aussi, puis celui des personnes que vous rencontrez régulièrement, sur la représentation des Amérindiens dans le cinéma américain, parce que j'ai lu des textes assez contradictoires, genre certains, par exemple, à la sortie de Thunder Earth de Michael Apted était assez content qu'on aborde le sujet des maltraitances subies par les Indiens, et en particulier là il y avait une histoire de meurtre qui est assez connue chez les Indiens aux États-Unis, et d'autres disaient non parce que c'est un film fait par les Blancs avec des sauveurs blancs, enfin voilà, et était très très divisé sur le sujet. Aujourd'hui, par rapport à la représentation des Amérindiens dans le cinéma, quel regard portent les Osages, et puis le vôtre, donc je me répète, hein, mais voilà, je suis le roi des questions longues.
Je vais essayer de vous répondre. Alors, c'est vrai que après cette période-là où l'Indien était cruel et sanguinaire, où le spectateur s'identifiait à John Wayne, souvent, il va retrouver sa dignité et sa sensibilité. Ça se constate surtout à partir des années 1970 avec des films comme Little Big Man, qui a eu un énorme succès, ou Soldat Bleu, ensuite Un homme de mes chevals. Bon, je ne vais pas tous les nommer, mais vous faisiez allusion à Cœur de tonnerre de Michael Apted, qui est un film de 1992. Et là, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il va suivre une intrigue qui devient commune à des films amérindiens tournés par les Amérindiens un peu plus tard. Alors je m'explique, hein, c'est pour les auditeurs, c'est une enquête sur le meurtre d'un Sioux Lakota qui est situé dans les Badlands du Dakota du Sud, et C'est un film qui est entre intrigue policière, militantisme et voyage initiatique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un thème qui est repris par les Amérindiens eux-mêmes après. Alors, on assiste au cheminement mental d'un agent qui est d'origine Sioux, mais complètement américanisé. Il rejette, enfin, il veut ignorer ses origines indiennes. Et puis, petit à petit, au contact des gens auprès de qui il va faire l'enquête, il va se rapprocher d'une militante indienne et d'un vieux sorcier. Et à leur contact, ça va réveiller en lui le sens des valeurs et des traditions oubliées. Et ça, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus commun. Et on se rend compte que sous l'influence des Américains blancs, les Indiens avaient été amenés à mépriser plus ou moins leurs origines. Ils étaient amoindris, ils étaient complexés. Et ça n'est que assez récemment, finalement, qu'ils vont retrouver leur fierté et leur dignité. Donc, je trouve que c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Et j'ai l'impression que dans ce film, il y a un lien indirect avec ce qui s'est passé à Wounded Knee en 1973, cette fameuse occupation du site de la tragédie de Wounded Knee. Par les Indiens d'un certain nombre de tribus, justement pour revendiquer leur identité qu'on les avait obligés à mépriser pendant longtemps. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a besoin d'être souligné.
Écoutez Marie-Claude Felt-Strigler, auteur de Les Indiens Osages, Enfants des Eaux du Milieu, paru dans la collection Nuages Rouges aux éditions du Rocher, au micro de Culture Prohibée. Vous l'avez vu le film de Martin Scorsese, je suppose que oui.
Ah oui, bien sûr, on l'a sorti. Et j'ai pris le tournage au fur et à mesure.
Qu'en avez-vous pensé, vous, de ce film?
Alors, pour être tout à fait honnête, j'appréhendais un petit peu la longueur du film. 3h26, c'est quand même assez long. Eh bien, pas du tout. La tension s'est pas du tout relâchée au fil du film, qui a été très fidèle à la réalité, très bien tourné, très bien joué. Et il passe d'un début style western à finalement un drame psychologique de façon très graduelle. On ne sent pas les différences, mais on reste centré sur l'histoire de Molly et de sa famille, et puis évidemment d'Ernest Burkhardt. Et puis en plus, j'ai eu le plaisir de retrouver des visages connus, puisque tous les figurants, et même certains acteurs, sont des amis Osage. Donc pour moi, c'était un plaisir supplémentaire. Là, le seul bémol, je le dis, c'est que les deux acteurs fétiches de Scorsese ont un petit peu forcé les traits. Mais bon, c'était aussi pour que les spectateurs comprennent mieux.
Bon, oui, c'est vrai que ça cabotine un petit peu, on va dire les choses. Bon, après, ça reste quand même du grand cinéma, hein. C'est un grand film.
C'est quand même du grand film. Ouais. Et ce que mes amis Osage ont beaucoup apprécié, c'est le respect qui leur a été montré. Et c'est vrai que l'équipe de tournage, les deux acteurs fétiches et Scorsese ont passé beaucoup de temps dans la réserve à discuter avec eux, justement pour être certain de ne pas trahir la culture et l'histoire de cette tragédie qui s'est passée. Donc, et leurs relations ont été vraiment très bonnes, ce qui est remarquable parce que ce n'est pas forcément toujours le cas. Il y a vraiment des liens qui se sont tissés entre eux.
Et l'honnêteté intellectuelle de Scorsese est à souligner parce qu'il, je sais pas si vous le savez, mais au premier montage de son film, il trouvait qu'il avait donné trop d'importance en fait, parce que bon, il aime vraiment le film de mafia, donc il avait donné beaucoup trop d'importance à ces deux acteurs fétiches, et il a retourné des scènes pour redonner la place qu'il méritait aux Indiens Osage. Donc c'est quand même gage de quelqu'un qui a fait preuve d'une honnêteté intellectuelle sans faille dans sa démarche artistique. Je trouve.
Oui, tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a attendu la sortie aussi longtemps.
Oui, c'est vrai.
Il a retourné des scènes, il en a rajouté. Et puis il y a eu le Covid au milieu, donc effectivement, on était en attente pendant très très longtemps. Mais c'est un beau film, et vraiment, il faut le voir. Alors, si je peux mentionner, c'est qu'on va encore plus parler des Osages, puisqu'il y a un autre film qui est sorti à 8 jours d'intervalle, qui est tout à fait original, ça n'a rien à voir, qui s'appelle « Un pont au-dessus de l'océan » de Francis Fourcault. Et là, c'est original, c'est une artiste occitane qui va en Oklahoma découvrir la culture et la langue osage, et une artiste osage qui vient en Occitanie découvrir la culture et la langue occitane. Donc, c'est vraiment le lien qui existe toujours, finalement, entre les Osages et la France. Voilà, donc je le mentionne juste en passant, parce que ça n'a rien à voir, mais ça montre bien que l'intérêt, finalement, de ces liens affectifs profonds existe toujours.
Dans votre ouvrage, Marie-Claude Feldstrigler, qui s'intitule donc « Les Indiens Osages, enfants des eaux du milieu », paru aux éditions du Rocher dans la collection Nuages Rouges, il y a un chapitre, le 8e, qui s'intitule « Quel 21e siècle ?» Et oui, quel 21e siècle? Du coup, je vous retourne la question. Quel 21e siècle pour les Indiens Osages?
Les Indiens Osages ont un statut particulier parce que quand ils ont été déportés au Kansas, dans le traité stipulait qu'ils pourraient rester dans la réserve tant que le soleil se lèverait, tant que l'eau coulerait. C'est l'expression consacrée. Et puis, comme vous savez, ils ont été déportés et ils sont allés en Oklahoma. Mais ils avaient réussi à économiser sur les annuités qu'on leur versait par traité, et par les indemnités qu'ils ont eues quand ils ont été obligés de partir, si bien qu'ils ont réussi à acheter leur réserve d'Oklahoma. Ils ont acheté ce territoire sur une petite partie de la grande réserve des Cherokees. Si bien que c'est une des seules tribus à avoir pu acheter sa réserve, ce qui leur donne des droits que n'ont pas les autres tribus. Donc, aujourd'hui, ils savent très bien que les revenus du pétrole vont diminuer. C'est une ressource naturelle non renouvelable. Et puis les cours du pétrole varient. Donc il faut varier les revenus pour continuer à avoir un bon niveau de vie. Alors, comme beaucoup d'autres tribus, ils ont ouvert des casinos. Ils ont aujourd'hui 7 casinos qui sont rentables, qui attirent des touristes, bien sûr. Et puis, aujourd'hui, comme beaucoup d'autres tribus, ils ont retrouvé leur dignité et leur fierté et ils veulent mêler le monde moderne et leur tradition. Donc, à la fin des années 80, ils ont ouvert une réserve naturelle pour reconstituer la prairie traditionnelle qui recouvrait une grande partie de l'Amérique du Nord, en fait, et qui a disparu avec la disparition des bisons et l'agriculture. Dans cette réserve, ils ont introduit, dès le départ, 300 bisons pour reconstituer cet écosystème particulier. Ces bisons se sont multipliés, ils sont aujourd'hui plus de 3000. Et il y a quelques années, ils ont aussi racheté le ranch de Ted Turner qui triple la surface de leur réserve. Donc aujourd'hui, cette grande prairie d'autrefois se reconstitue, les bisons se multiplient, ce qui évidemment attire aussi les touristes. Donc comme on voit, ça diversifie leurs revenus et ils regardent aujourd'hui finalement l'avenir avec quand même une grande confiance. Et alors quelque chose qui aussi attire l'attention, c'est que dans les troupeaux de chevaux, eh bien, il y en a qui s'échappent, qui redeviennent sauvages, qui se multiplient. Donc on revient vraiment aux chevaux sauvages d'autrefois, aux bisons d'autrefois, aux écosystèmes d'autrefois, dont finalement ils vont tirer parti pour se diversifier, attirer les touristes, tout ça avec les casinos bien entendu. Donc voilà, ils marient la tradition et la modernité aujourd'hui dans la réserve. Dans la mesure où dès le départ ils ont été quand même beaucoup scolarisés, aujourd'hui il y a des professeurs d'université, des artistes, des écrivains, des poètes. Donc voilà, c'est une nation moderne qui vit avec sa tradition.
Nanu opakshe, wahe a hope etra.
Vous écoutez Culture Prohibée. Après ces échanges passionnants avec Marie-Claude Felt-Strigler, donc spécialiste de l'histoire des Indiens des États-Unis, dont on vous rappelle l'ouvrage pour lequel nous la recevions, c'est « Les Indiens Osages, enfants des eaux du milieu » qui est paru dans la collection Nuages Rouges aux éditions du Rocher. Après, donc, j'ai envie de dire, ces informations en pagaille là, qu'on vient de recevoir, on va essayer à notre niveau, à nous, avec mon ami Thomas, de vous parler un peu de la représentation des Amérindiens au cinéma. Alors c'est un groupe ethnique qui a été très 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 souvent en fait utilisé dans le cinéma américain. Et ce qui est assez étonnant, si l'on se fie au travail des historiens du cinéma plus spécialistes du sujet, ce qu'on constate, c'est que, comme on en a échangé à l'instant avec Marie-Claude Felt-Strigler, c'est que les Indiens, en fait, ont ont été jusqu'en 1930, entre 1900 et 1930, des personnages très positifs qui étaient presque idolâtrés et qui étaient mis en avant dans des films qui étaient totalement, comment dire, qui ne les décrivaient pas du tout comme des brutes épaisses, une menace ou quoi que ce soit, voilà, mais on vantait plutôt leur qualité, leur mode de vie, comment dire. On mettait en avant, en fait, que c'était des personnages très, très positifs. Et puis arrive la crise de 29, arrive aussi une forte propension, toujours selon le spécialiste, des Afro-Américains, à partir des années 30, à exiger, à vouloir se battre et à exiger plus de droits. Et du coup, en parallèle, c'est un peu les Indiens qui vont prendre. À partir des années 30, on constate que les Indiens deviennent un groupe menaçant, un groupe effrayant, et que même des grands cinéastes vont, alors qui changeront d'avis après, mais comme John Ford et tout, vont les représenter un peu comme des personnages dangereux, très effrayants. On en reparlera, on va développer tout ça. Et il y a des films qui vont essayer de changer la donne. Alors il y a un double tournant, on va dire, en 49 et en 50, avec La Flèche brisée de Delmer Daves et La Porte du Diable d'Anthony Mann, mon cher Thomas.
Oui, Anthony Mann, La Porte du Diable est considéré comme le premier film pro-indien, qui est plutôt méconnu par rapport à La Flèche brisée de Delmer Daves, qui l'a un peu éclipsé. Pourtant, la grosse différence entre les deux films, c'est que dans La Porte du Diable, qui montre les Indiens sous un aspect positif, eh bien là on est du point de vue des Amérindiens. Là, même s'il y a quelques petits bémols, parce que le personnage principal est incarné par un blanc qui est grimé, par Robert Taylor. Donc c'est le petit défaut du film. Sinon, c'est le premier western d'Anthony Mann, donc réalisé en 1950. Et Anthony Mann, donc, il impose un style au western qui est quand même assez différent, un style qui est à rapprocher de ses films noirs, parce qu'il travaille, je crois que c'est la dernière fois d'ailleurs qu'il travaille avec lui, avec son directeur de la photo, John Alton, qui faisait des merveilles. Il sculptait vraiment l'image avec en noir et blanc, il faisait des clairs obscurs, des contrastes très forts, et on retrouve ça notamment dans une scène de bagarre à main nue, qui est assez mémorable. Et il apporte aussi au western cette âpreté, ce côté sec, assez sombre, qui n'était pas forcément là dans les westerns précédents. C'est un film qu'on peut mettre donc en parallèle avec le film de Scorsese qu'on va aborder tout à l'heure, parce que c'est l'histoire d'un Amérindien qui revient de la guerre de sécession, qui a été décoré, et donc il revient sur ses terres. Il possède de grandes terres, c'est un Indien qui est riche, qui a du bétail et qui arrive à prospérer avec ça, lui et ses semblables, et qui suscite, quand il revient chez lui, il suscite, il a droit à des réflexions racistes de la part des colons, des blancs, quoi, qui veulent, entre autres, lui piquer ses terres, parce qu'il y a des lois scélérates qui ont été instaurées, comme quoi maintenant il faut un titre de propriété, et que les blancs vont piquer leurs terres aux Indiens, aux Amérindiens. Et donc là, ça rapproche vraiment la thématique du film de Martin Scorsese, The Killers of the Flower Moon. Et donc c'est l'histoire de cet Amérindien interprété par Robert Taylor qui va résister comme il peut, d'abord de façon légale. Il va vouloir se rapprocher d'une avocate avec qui va vaguement y avoir une idylle. Il va se rapprocher d'une avocate pour pouvoir combattre légalement ces lois et pouvoir garder ses terres. Et après, bien sûr, ce sera l'escalade de la violence et avec tout ce qu'il y a, les comportements racistes, les clichés que peuvent avoir les uns sur les autres, etc., etc. Donc je disais, c'est le premier western d'Anthony Mann, et donc là il change vraiment la donne. C'est vraiment le film qui apporte une autre image des Indiens, même si moi je trouve que c'est pas forcément le premier film qui est pro-indien. Tu parlais de John Ford là, Justement, j'ai revu, j'en ai profité pour revoir le massacre de Fort Apache. Et dans le massacre de Fort Apache, qui est un film de 48, les Indiens ne sont pas forcément montrés comme, comme une menace. C'est-à-dire qu'en fait, le propos de John Ford, c'est qu'il montre une armée colonialiste qui n'a pour but que de massacrer les Indiens. Et même si les Indiens sont quand même un peu en retrait, il y a le personnage de Cochise qui apparaît, mais les Indiens, en fait, dans le film, eux, ils veulent aussi la paix, quoi. Et c'est le personnage interprété par John Wayne qui lui intercédera de façon aussi à ce que la guerre entre les Amérindiens et l'armée américaine cesse. Mais John Ford montre bien une armée belliciste, qui prend les traits d'Henry Fonda, qui est un officier de l'armée américaine particulièrement intolérant, rigide, peu ouvert aux idées des autres, aux idées différentes, etc. Et donc, pour moi, c'est pas forcément La Porte du Diable et La Flèche brisée ne sont pas forcément les premiers films pro-indiens. Il y avait déjà des prémices avant. Bon, j'ai cité le massacre de Fort Apache. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais qui ne me viennent pas forcément en tête. Mais pour moi, le massacre de Fort Apache, déjà, il y avait déjà quelque chose.
Au niveau du massacre de Fort Apache, on voit quand même encore, même si le personnage de Cochise, oui, qui est en retrait, il est intéressant, parce qu'en plus, il maîtrise des langues étrangères, tout ça, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que souvent, dans les films de Ford, on voit que les Indiens parlent un langage qui n'existe pas, en fait, qui n'est pas le langage des Indiens. Les Indiens n'avaient pas le langage qu'il y avait dans les films de Ford. Le massacre de Fort Apache, on voit encore quand même des Indiens très cruels, beaucoup plus cruels que ce qu'ils étaient visiblement, dans ce que qu'ont constaté les historiens dans leur pratique guerrière, où ils sont vraiment des très sanguinaires, on va dire. Je crois qu'ils attachent des soldats à des roues pour les torturer, ça. Enfin, c'est des choses que pratiquaient pas, en fait, les Indiens. Voilà. Mais par contre, il y a une bascule chez John Ford. C'est vrai qu'après avoir... il le reconnaîtra lui-même, il le dira lui-même, de toute façon. Après avoir longtemps caricaturé les Indiens comme des méchants, d'ailleurs, même par sa mise en scène dans certains films, comment dire, il désociabilise, d'ailleurs, il les déshumanise, parce qu'ils n'apparaissent que comme une menace extérieure, violente. Et c'est vrai que là, dans le massacre de Fort Apache, il y a déjà des changements. On sent qu'effectivement, Ford, petit à petit, il va changer son discours, et petit à petit, après on sait où ça va le mener, son discours, son schéma va se fissurer. Il va y avoir la prisonnière du désert, et puis surtout les Cheyennes, hein, où on va commencer à attribuer ce qu'on commence à faire aussi dans le massacre de Fort Apache, hein, mais encore plus fort dans les films dont je parle là, la violence aux blancs en fait, et pas aux Indiens. Et effectivement, Ford va complètement changer son point de vue. D'ailleurs, il tord le cou un peu à ses anciens films et à son ancienne vision du peuple indien dans La Prisonnière du désert, par le plan qu'il fait sur Monument Valley, qui contraste avec ces films de jeunesse, on va dire, où les Indiens étaient, comment dire, représentés comme des personnages assez sanguinaires. Et alors c'est vrai que les Amérindiens, à cette époque-là, il y a, comme tu le disais, Thomas, tu l'as rappelé fort justement, le film de Delmer Daves, le film d'Anthony Mann, John Ford aussi, qui va faire évoluer son point de vue. Petit à petit, il y a une prise de conscience. Et puis arrivent les années, années 60, années 70, les années de la guerre du Vietnam. Et à ce moment-là, l'Amérindien va aussi devenir le Vietnamien, hein, ce dont on échangeait avec Marie-Claude Feldstrigler durant l'entretien. Il va servir de métaphore à ce que subissent les soldats américains envoyés au Vietnam, mais aussi le peuple vietnamien. Et on va le voir, par exemple, avec Soldat bleu de Ralph Nelson. Et petit à petit, la figure de l'Amérindien, elle va rester dans la culture populaire, dans le cinéma, dans le cinéma américain. Alors on balaye tout cela assez vite parce qu'il nous faudrait beaucoup, beaucoup d'émissions.
We are the tribe that they cannot see. We live on an industrial reservation. We are the Halusa Nation. We have been called the Indians.
Vous écoutez Culture Prohibée spéciale Amérindien dans le cinéma US.
We have been called hostile. We have been called pagan. We have been called militant.
Et puis il y a des films qui vont petit à petit, on va continuer à illustrer. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, dans la série Yellowstone, on voit une série qui fonctionne énormément avec Kevin Costner. Kevin Costner, même dans Danse avec les loups, qui va faire des erreurs, d'ailleurs, qui vont beaucoup lui être reprochées par les historiens, mais qui a une vraie volonté aussi de réhabiliter les Indiens dans son travail. Et avec le temps, la mer indien, en tout cas, va devenir un personnage de fiction, même assez passionnant. Et là, vraiment, dans la série Yellowstone, on voit vraiment comment ça fonctionne, à partir de la construction de casinos, à partir du pouvoir local, des élus locaux qui sont des Amérindiens, comment ils fonctionnent avec les sénateurs, c'est très, très, très intéressant. Et puis, moi, je voulais parler d'un film, mon cher Thomas, qui, avant qu'on arrive au film de Scorsese, qui s'appelle Cœur de tonnerre, de Michael Apted, un réalisateur britannique. Un film qui raconte l'histoire. Alors, on en a parlé pendant l'entretien avec Marie-Claude Feldstrigler, hein, donc je ne vais pas re-raconter l'histoire qui vient de vous être racontée par Marie-Claude Feldstrigler, mais ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est que c'est un film, par exemple, qui est aujourd'hui remis en cause par pas mal d'universitaires, par des spécialistes, enfin, des tenants des cultural studies, des choses comme ça, qui disent oui, mais en fin de compte, c'est quand même encore un film qui, quelque part, illustre un peu l'image du sauveur blanc. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. D'ailleurs, on en a échangé avec Marie-Claude Feldstrigler, qui a émis un avis que je partage complètement, parce qu'en fait, le personnage principal, cet agent du FBI qui vient pour enquêter parce qu'il y a eu, des meurtres dans une réserve, il est lui-même un sang-mêlé. Et petit à petit, il va redevenir au contact de ses origines, il va redevenir quelque part un Sioux. C'est beaucoup plus subtil et intéressant que le point de vue de certaines personnes qui aujourd'hui voudraient un peu caricaturer ce film ou le juger à l'aune des critères retenus aujourd'hui pour juger une œuvre. Critères d'ailleurs fort discutables. Ça, on pourrait débattre là-dessus aussi. Mais il faut savoir quand même que le film a pour moi une importance très, très grande, puisque déjà, c'est le film qui va me ramener, moi, vers les combats des Indiens aux États-Unis, vers la libération de Léonard Peltier, qui était un combat mené par les Amérindiens, de quelqu'un d'accusé à tort de meurtre, qui était un peu le pendant de Mumia Abu-Jamal pour la population américaine, là, pour la population amérindienne. Et puis, Michael Apted va tourner la même année un documentaire sorti en salle qui s'appelle « Incident at Oglala », qui va traiter de la mort des deux agents du FBI en 75 dans la réserve de Pine Ridge, dans les Badlands. Et c'est bien la preuve que pour Michael Apted, il n'a pas pris le sujet par-dessus la jambe, qui s'est vraiment intéressé à son sujet, à tel point qu'il en a fait un documentaire. Il n'était pas obligé, hein. À la base, il faisait un film avec Val Kilmer, qui était l'acteur, la star montante, les Doors d'Oliver Stone, tout ça. C'était l'acteur en vogue. Et petit à petit, il va aussi y avoir des changements dans la société américaine qui vont nous rapprocher aujourd'hui du travail de Martin Scorsese. Différents ouvrages. Et en particulier, il va y avoir deux ouvrages. Il va y avoir Le sang noir de la terre de Linda Hogan, qui était la finaliste du prix Pulitzer en 91, qui est un roman qui a été finaliste du Médicis étranger lors de sa publication en 2003. Donc c'était bien avant le livre de Grane, en fait. Et qui est un roman qui traite du même sujet, en fait, que La note américaine, une écriture très dense, moins facile d'accès que le bouquin de David Grane. C'est-à-dire que là, l'écriture est très dense dès les premières pages. On a toute une flopée de personnages qui nous sont présentés. Donc il faut quand même s'accrocher dans les premières pages. Mais ce qui est frappant, c'est que malgré le glauque de ce que ça raconte, je ne vous le redis pas, puisqu'on en a parlé avec Marie-Claude Feldstrigler, hein, le sort qui a été fait aux Indiens Osages et la manière qu'on a trouvé pour essayer de récupérer leur pétrole, l'argent du pétrole. Mais ce qui frappe, c'est que malgré toute cette noirceur, le livre arrive à avoir une certaine poésie et même un humour que certains qualifient, parce qu'elle, c'est une Chickasso, elle vient d'une tribu voisine des Osages, Linda Hogan, et il y a un humour qu'on qualifie d'humour typiquement indien. Ce serait assez, assez drôle. Moi, je ne connais pas assez la culture indienne, mais les spécialistes considèrent que c'est un humour très, très indien. Et puis surtout, moi, ce que j'aime dans ce livre, c'est l'aspect des non-dits. C'est-à-dire, il y a tout ce qui est décrit dans le livre, et l'imaginaire du lecteur travaille énormément, et du coup nous on s'imagine des choses qui sont un peu, qui seront un peu après plus développées dans le livre de Grant, de David Grant, et puis on peut difficilement décorréler ce livre là, Le sang noir de la terre de Linda Hogan, donc paru aux éditions du Rocher, on peut difficilement dans la collection Nuages Rouges également le déconnecter du bouquin de David Grann et du film de Scorsese qui en découle, puisque là on s'attache aussi tout particulièrement au destin d'une femme qui s'appelle Nola dans le livre de Linda Hogan, et cette femme dans le livre de David Grann, La note américaine. Et donc, dans le film de Scorsese, elle s'appelle Molly, hein, qui est vraiment le personnage central du film de Scorsese. Donc, je crois que Thomas, le Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese t'a particulièrement impressionné.
Pour moi, c'est le retour de Scorsese à un cinéma beaucoup plus intéressant que son film précédent, que je ne trouvais pas terrible. Et il rejoint un peu ce côté de critique des fondations de la civilisation américaine. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un film qu'on peut mettre en parallèle avec le film d'Anthony Mann, La Porte du Diable, parce que c'est les Blancs qui se rendent compte que les Indiens aux âges, ils possèdent du pétrole, il y a du pétrole sur leur terre, et ils essayent de spolier leur richesse, parce que ce sont des Indiens qui sont riches, ils ont des chauffeurs blancs, et les Blancs, justement, pour pouvoir spolier leur richesse, leur terre, leur pétrole, eh bien, en fait, ils se marient avec des Indiennes. Et puis, petit à petit, il y a une espèce de rapport amour-haine qui se noue entre dans ces mariages. Les femmes meurent de façon plus ou moins mystérieuse. Hein. On devine qu'il y en a qui meurent empoisonnées. Et il y en a qui sont carrément exécutées. On peut le voir dans le film à un moment. Et il y a ce personnage incarné par Leonardo DiCaprio qui revient de la guerre et qui tombe amoureux d'une Indienne aux âges. Plus ou moins télécommandé par son oncle incarné par Robert De Niro, et au fur et à mesure il va essayer de tuer donc son épouse pour pouvoir récupérer toutes les richesses. Et lui-même est un tueur, hein, on le voit tuer des gens, des Indiens, des Amérindiens durant le film. Et c'est un film qui est c'est un film fleuve, hein, c'est un film qui fait 3h30. Et effectivement, c'est donc pour raconter une telle histoire, effectivement, il faut peut-être du temps. Moi, je trouve qu'il y a des petites longueurs vers la fin. Il aurait pu traiter certaines scènes par ellipse parce qu'on avait compris, où il voulait en venir, etc. Et il y a un petit peu trop de musique, hein, à mon goût. Mais c'est un film qui montre bien sur quoi s'est fondé la nation, la civilisation américaine telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc sur la violence, sur la spoliation, sur l'idée d'en finir avec des ethnies, hein, parce qu'on parle de génocide amérindien. Hein, on peut aussi mettre ça en parallèle, c'est un film qui peut aussi parler des États-Unis telles qu'elles sont aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, Martin Scorsese le dit, pour lui, c'est un film qui parle aussi des meurtres de noirs par les policiers, mais aussi on peut aussi voir une parabole sur cette façon qu'ont les États-Unis de vouloir se mêler des affaires des autres, c'est-à-dire de l'ingérence au niveau international, par exemple quand ils vont faire la guerre en Irak juste pour piquer le pétrole. On peut voir ça aussi dans le film. Donc c'est un très bon Scorsese que je recommande vivement, et surtout en ces temps où le cinéma états-unien, je trouve qu'il propose pas grand chose de bien depuis quelques années, ça redonne foi dans certains cinémas, ces productions américaines. C'est l'une des meilleures productions américaines qu'on peut voir actuellement en salle.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission
culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland, dit le Loup-Garou Picard. Un petit coup de main à la technique de Damien Demey, dit la Bête Noire de Compiègne. And the last but not the least, à l'architecture sonore de l'ensemble, je veux bien sûr parler de Léo Magnien. Salut les gens, à la prochaine.